environ le chapitre 13 du livre des Juges. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra en la main des Philistins pendant 40 ans. Et il y avait un homme de Tsora de la famille des Danites, et son nom était Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'enfantes pas. Mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde de cette fille, et ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur, car voici, tu concevras, et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Et la femme vint et parla à son mari, disant, « Un homme de Dieu est venu vers toi, et son aspect est comme l'aspect d'un ange de Dieu, très terrible. Et je ne lui ai pas demandé d'où il était, mais il ne m'a pas fait connaître son nom. Et il m'a dit, « Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange rien d'impur, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Et Manoah supplia l'Éternel et dit, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, je te prie, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au jeune garçon qui naîtra. » Et Dieu exauça la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, comme elle était assise au champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et la femme se hâta et courut, rapporta son mari, et lui dit, « Voici l'homme qui était venu vers moi. L'autre jour, on est apparu. » Et Manoah se leva et suivit sa femme, et il vint vers l'homme et lui dit, « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ?» Et il dit, « C'est moi. » Et Manoah dit, « Quand donc ta parole arrivera, quelle sera la règle du jeune garçon ? Et que devra-t-il faire ?» Et l'ange de l'Éternel dit à Manoah, « La femme se gardera de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien de ce qui sort de la ville, elle ne boira ni vin ni boisson forte, et ne mangera rien d'impur. Elle prendra garde à tout ce que je lui ai commandé. » Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Laisse-nous te retenir et t'apprêter au chevron. » Et l'ange de l'Éternel dit à Manoah, « Si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton pain. Et si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Car Manoah ne savait pas que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous t'honorions quand ce que tu as dit arrivera ?» Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et Manoah prit le chevreau et le gâteau, et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et il fit une chose merveilleuse, tandis que Manoah et sa femme regardaient. Il arriva que, comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Manoah et sa femme regardaient. Ils tombèrent sur leur face contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'a pas vu plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel. En tournant la page, nous irons à verset 2, au chapitre 16, au verset 7e. Et Samson lui dit à Delila, si on me liait avec 7 cordelettes fraîches, qui ne fussent pas desséchées, alors je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Verset 11. Et il lui dit à Delila, si on me liait bien avec des cordes d'or, dont on n'aurait fait aucun usage, alors je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Au milieu du verset 13, et il lui dit, si tu tissais cette tresse de ma tête avec le fil à tisser, et elle les fixa avec la cheville et lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le fil. Au verset 20, et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il se dit, je m'en irai comme les autres fois et je me dévincerai. Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Et ils tournaient la meule dans la maison des prisonniers. Chacun de nous connaît bien l'essentiel de ce livre des juges, et surtout la relation ou la comparaison que l'on en fait avec le livre de Josué. Livre de Josué, livre de combat, de victoire, un capitaine d'une valeur exceptionnelle est à la tête du peuple, et les uns après les autres, les ennemis sont défaits. La raison, elle est bien simple, elle est bien évidente. Le peuple est soumis à l'Éternel, est soumis à Christ, dont Josué est un type saisissant. L'Esprit de Christ agissant en puissance au milieu de son peuple. Et le secret, c'est Gilgal. Le peuple revient au camp à Gilgal, là où il y a le mémorial du passage du Jourdain, les 12 pierres, où pour nous, spirituellement, nous avons le côté pratique de notre mort avec Christ, le dépouillement de la chair. Colossiens 2. Vous êtes morts, voilà la déclaration divine. Tout le cas que Dieu a fait de l'homme en la chair, c'est cela. Après l'avoir soumis à tous les essais, à toutes les épreuves, dans les meilleures conditions qui soient, Dieu n'a plus qu'une seule solution, non pas d'améliorer la chair, non pas de pardonner la chair, mais de tuer la chair. Dieu pardonne nos fautes et nos péchés, mais il tue la chair, il met de côté, judiciairement, définitivement, cette racine qui porte tous les maux. Car c'est du cœur naturel, du vieil homme, de cette source morale impure que sortent tous les maux. Sont des vérités élémentaires, fondamentales, sans la connaissance desquelles et sans la réalisation desquelles nous ne pouvons pas jouir d'une marche heureuse dans ce monde, dans la séparation du mal, dans la méfiance de nous-mêmes et surtout en communion avec le Seigneur. Hélas, le prophète dira, votre piété, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, sans doute, bien aimé, si le Seigneur n'intervient pour nous relever et pour nous ranimer, le prophète dira votre piété. Elle s'en est allée aussi vite, aussitôt, que la rosée. La rosée qui s'en va de bonheur. Et le Seigneur rappellera par le prophète Jérémie la beauté de ce temps des fiançailles, où il sent que le cœur du peuple avait joui, avait participé à un élan qui était agréable au Seigneur. Mais hélas, ce fut un temps qui n'excéda pas la durée de la rosée du matin. Si nous ouvrons le livre des juges, au lieu d'assister à un peuple qui marche de l'avant, qui prend possession de l'héritage que Dieu lui a donné, car la possession de l'Esprit de Dieu nous introduit dans le combat, Éphésiens 6, nous l'avons déjà rappelé, et notre héritage qui est au ciel, notre héritage dans les lieux célestes, il faut le conquérir pied à pied. Il faut le disputer, non pas au sang et à la chair, aux Cananéens comme Israël, mais aux puissances spirituelles de méchanceté. Ce combat n'ayant pas été soutenu, ayant été abandonné, nous voilà dans le livre des juges. C'est un livre, au lieu d'avoir de la joie et des victoires, c'est un livre de larmes et de défaites. L'ange de l'Éternel vient à Bochim et comme un père s'adresse à ses enfants, consterné qu'il est de voir leur conduite qui ne peut leur amener que des conséquences désastreuses pour eux, l'ange leur dit: pourquoi avez-vous fait cela? Voyez quelle tendresse dans le cœur de Dieu. Fin du verset 2 du chapitre 2 du livre des Juges. Vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et aussi j'ai dit, je ne les chasserai pas de devant vous. Et ils seront à vos côtés, en parlant des nations, et leurs dieux seront en pierre. Il y a un gouvernement maintenant. Il faudra subir. Et le peuple élève sa voix et pleure, fin du verset 4. Alors nous avons un tableau qui se répète au moins 7 fois. Le peuple fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Les ennemis sont employés par Dieu comme cette verge, comme ces épines dans leur côté. Quand ils connaissent alors le jugement de Dieu, le gouvernement de Dieu, ils reviennent, ils pleurent, et Dieu a pitié. Car il est dit plusieurs fois, Dieu avait compassion de Dieu. Dieu avait pitié de son peuple. En voyant comment il était assujetti aux ennemis, de la manière dont il souffrait, Dieu était ému de compassion. Que faisait l'Éternel? Leur suscita un sauveur, suscita un homme, un élément, et disons-le en passant, dont le caractère, dont l'attitude, le service est bien en rapport avec un ton de faiblesse. Prendra un gaucher. Voyez ce que je veux dire. Il n'y a plus rien de l'éclat des premiers jours. Tout est marqué par la faiblesse, mais nous l'avons déjà répété, et retenons-le, chers amis. La route peut être aussi profonde que possible. Les privilèges, les déclarations, les promesses que Dieu a faites ne sont pas altérées. Et pour la foi, mais plus la ruine est grande, plus elle individualise le croyant. Pour la foi, toutes les ressources demeurent. Car il n'y a pas de changement, Dieu, pas d'ombre de variation. Et nous arrivons maintenant à la 7e fois, si nous avons bien compté, où il est dit que les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et ils tombent sous la coupe des Philistins. C'est quelque chose de sérieux de penser que ce sont les Philistins maintenant qui vont assujettir le peuple de Dieu. Et vous remarquez bien, pour cette 7e fois, il n'est pas dit que le peuple crie à l'Éternel. Et quelqu'un disait, c'est combien vrai, cher ami, les chaînes les plus lourdes sont celles que l'on sent le moins. Quand l'ennemi a réussi à nous assujettir, à nous ligoter, c'est une réussite pour lui de première valeur. Les chaînes les plus lourdes sont celles que nous sentons le moins. Et le peuple ne crie plus à l'Éternel. Ce sont les Philistins qui maintenant assujettissent le peuple, qui prennent sa place. Donc, c'est cela qui est grave, à l'intérieur des frontières d'Israël. Ce ne sont plus des tribus éloignées que Dieu emploie pour venir châtier son peuple, ce sont les ennemis qui ont fait irruption dans les frontières d'Israël. Le monde entré dans la maison de Dieu. Le monde Dieu se sert comme terre. C'est un sang terrible. Et quand nous disons que les chaînes les plus lourdes sont celles qu'on sent les moins, si vous voulez tourner la page, vous allez voir. Voilà, c'est au chapitre 15. C'est au chapitre 15. Évidemment, nous franchissons un grand moment de temps. Mais 3000 hommes au verset 11 de chapitre 15, de Judas descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous et que nous as-tu fait ?» Vous voyez, quand Dieu suscite un instrument maintenant pour secouer le joug, un homme qui prend conscience de l'asservissement du peuple de Dieu, qui prend sa vie dans sa main pour lutter pour la délivrance du peuple, le pauvre peuple vient de dire, mais que nous a-t-il fait? Mais nous satisfaisons de ce jour des Philistins, nous sommes habitués, qu'est-ce que tu viens faire? Alors ce fidèle que tu choisis, cet homme doué d'énergie morale, il est traité comme un marginal, comme quelqu'un qui est un trouble-tête, et qu'il faut mettre à la raison. Pourquoi vient-il troubler cet état de choses? Les choses sont ce qu'elles sont, pourquoi les changer? Donc le peuple ne souffre même plus d'être assujetti aux Philistins, et quand cet homme suscité par Dieu vient pour briser ce joug, c'est contre lui, c'est contre le Sauveur, c'est contre le Libérateur que le peuple se tourne. Et donc, imaginez, j'ai nommé aberration plus grande et asservissement plus funeste, plus lamentable que celui-là. Mais, quelle grâce, cela n'empêche pas Dieu d'agir. Et qui va-t-il choisir maintenant? Dans cette extrémité, cette fois, le peuple fait ce qui est mauvais au Dieu de l'Éternel et ne sent même plus son misérable état, ne pense même plus à crier à l'Éternel. Vous pouvez faire dans votre esprit la relation avec l'état dans lequel nous sommes parvenus. Il est aisé d'établir une comparaison et des parallèles absolument significatifs. Mais que va faire l'Éternel? Remarquons, j'aime comme c'est beau. Il va prendre les plus faibles, les plus insignifiants parmi son peuple pour le délivrer, car sa puissance s'accomplit dans l'infirmité. Nous ne verrons plus aujourd'hui les moyens puissants que l'Esprit de Dieu a mis en œuvre au début de la parenthèse de l'Église. C'est un temps de petites choses. Mais le prophète s'écrit, mais qui a méprisé le temps de petites choses? Parce qu'à travers les petites choses, Dieu se glorifie et agit pour sa propre gloire qu'il ne donne jamais à un autre, et en même temps pour la délivrance des siens. Alors, il y a là, à proximité du pays des Philistins, un couple, un ménage, Manoah et sa femme. Et la femme est stérile et n'enfante pas. Image saisissante de ce qu'est le peuple à cette époque, stérile, n'enfante pas. Mais Dieu connaît notre état. Dieu sait bien où nous en sommes, ce que nous sommes, quels sont nos besoins, nos circonstances, quel est notre niveau spirituel. Et quoi qu'il en soit, Dieu veut nous faire du bien, veut nous relever et nous amener à nous dégager de tout ce qui nous entrave pour jouir de la communion avec lui. Et l'homme vient dire à cette femme, l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel lui-même, celui qui représente l'Éternel, celui qui a fait des promesses, nous avons encore l'Éternel ici, ce n'est pas encore le Dieu des cieux, le Lohami n'est pas encore prononcé définitivement, c'est encore l'Éternel. Nous l'avons dit l'autre soir, Jéhovah, Exode 3, Exode 6, Elohim, Dieu dans toute sa majesté, dans toute sa grandeur, sans relation quelconque avec quiconque, qui s'est plu à faire des promesses à Abraham, à le faire sortir du dur des Chaldéens et à faire de lui la souche d'un peuple qu'il veut bénir. Et l'appel de Dieu
et les promesses sont dans le bon livre. L'ange de l'Éternel, celui qui représente l'Éternel, et nous allons voir tout de suite quelle est sa personnalité, entre en scène ici, et il vient dire à cette femme, « Voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas. » Pour ne pas cacher notre état auprès de Dieu. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Et la parole de Dieu, Hébreux 4, est identifiée à Dieu de telle manière que nous ne pouvons pas dire si c'est Dieu ou sa parole. Mais ce que la parole est à Dieu, le Fils l'est au Père. Un ensemble de personnes divines, insondables, et quoi qu'il en soit, toutes choses sont nues et découvertes à la parole de Dieu. Elle est comme l'épée de l'esprit qui entre jusqu'au fond de nous-mêmes et qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Ce qu'aucun chirurgien ne pourrait faire avec le bistouri le plus épiné, Dieu le fait, pénètre jusqu'au fond de notre âme et vient découvrir notre état. Mais pour que cet état étant découvert, prenant connaissance de nos besoins, nous puissions recevoir en grâce les ressources qu'il a préparées pour cet état. Voici qui est stérile, tu m'enfantes pas. Mais Dieu a des ressources. Et voilà, dit-il, tu concevras et tu enfanteras un fils. Mais cette promesse est assortie de certaines conditions. Et il dit à la femme ce qu'elle devra faire, quelle sera sa conduite, et ce qu'elle aura à faire à l'égard du jeune garçon qui sera Nazaréen de Dieu. À la note, vous avez un renvoi, c'est nombre qui sera séparé pour Dieu ou Nazaréen de Dieu. Ou séparé pour Dieu, c'est un seul et même terme. Alors, par qui Dieu peut-il délivrer aujourd'hui? Comment Dieu peut-il opérer en vue du bien de son peuple? Par un élément, par des éléments qui sont Nazaréens, qui sont séparés pour Dieu. Impossible de disposer de quelque puissance spirituelle que ce soit dans le mélange lorsque la chair et l'esprit sont mis ensemble ou lorsqu'on veut les mettre sous le même jour. La ressource sera efficace dans la mesure où ce jeune garçon sera Nazaréen et il doit l'être dès le ventre de sa mère. Que de leçons nous avons à tirer. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails du Nazaréen. Mais nous savons bien qu'il était autrefois temporaire. Il était limité, il était temporaire. Quelqu'un faisait vœu de Nazaréen, se consacrait entièrement à l'Éternel pour une partie de sa vie. Pour nous, le Nazaréen, il est permanent. Il n'est pas temporaire. Il commence le jour de notre conversion et il se termine quand le Seigneur vient ou lorsqu'il nous rassure. C'est la fête des pains sans levain, autrement dit, qui dure 7 jours, une période complète. Sera Nazaréen dès le ventre de sa mère. Mais dans un temps de revue, vous voyez, le Nazaréen, Samson, devait commencer son Nazaréen dès son entrée dans le monde, et ce Nazaréen, cette mise à part pour Dieu, ne devait souffrir d'abord aucune altération et aller jusqu'à la fin de sa vie. Si nous en est accordé quelques minutes, nous verrons, pauvre Samson, comment son Nazaréen a été perdu. Mais n'anticipons pas. Alors, que veut dire Nazaréen? Nous l'avons dit, séparé pour Dieu. En quoi consistait le Nazaréen du jour d'autrefois? Dans des éléments essentiels que nous allons essayer de résumer, mais qui nous concernent aujourd'hui, en les appliquant spirituellement. D'abord, ne boire ni vin, ni boisson forte. Ne pas manger de raisin, depuis les pépins jusqu'à la peau. C'est-à-dire, s'abstenir de tout ce qui vient de la vigne. Et la vigne est une image de la joie que les hommes trouvent dans son. S'abstenir, le Nazaréen s'abstient de toutes les joies naturelles de ce monde, de tout ce que l'homme trouve comme source de joie dans ses rapports sociaux dans ce monde. Pas de vin, pas de boisson forte, et pour montrer que rien, c'est l'histoire des récadites, soit dit en passant, pour montrer qu'il n'y a pas d'exception, Dieu dit, même depuis les pépins jusqu'à la peau. Les joies de ce monde sont des joies qui n'ont aucun point de contact avec Dieu. Le monde qui se réjouit sans Dieu. le monde qui se réjouit est le monde qui s'est constitué en un vaste système opposé à Dieu, dont tous les rouages fonctionnent admirablement, bien conduits, bien agencés, bien huilés par celui qui est le chef de ce monde. Mais le vrai caractère du monde, comme en toute autre chose, nous l'avons à l'enfant. Quand nous voulons connaître le caractère du monde, et il peut prendre des caractères intéressants, des caractères séduisants, quand nous voulons savoir ce qu'est le principe même du monde, politique, religieux, social, culturel, quel qu'il soit, Dieu nous montre l'enfant. Pour Paul, il n'y avait pas d'équivalent. Le monde, voilà, c'est une croix. Et pour le monde, Paul était crucifié. Et pour Paul, le monde était crucifié. Et pour le monde, il voyait en Paul un homme crucifié. Aucun point de contact. Dieu ne donne rien pour satisfaire le nouvel homme de ce qui sort du monde, de ce qui vient du monde. Dieu ne nourrit pas son peuple avec quoi que ce soit qui vient de l'Égypte, avec la mine de l'Égypte. Première chose, ni vin, ni boisson forte, rien de ce qui exalte, de ce qui met la chair en activité. Deuxième chose, le Nazaréen devait laisser croître sa chevelure. Un élément intéressant. Quand on voyait un Nazaréen en Israël, il y en a eu, on le voyait, il portait un signe distinctif, notoire, la longue chevelure qu'il portait, on disait, tiens, voilà un Nazaréen. Autrement dit, quelqu'un qui faisait l'abandon de sa dignité, de sa volonté propre, de sa personnalité, montrait qu'il n'avait qu'un seul objet, faire la volonté de Dieu. Sa longue chevelure en était le signe extérieur. Vous nous excuserez d'avoir beaucoup de liberté avec nous, je le remets dans l'affection fraternelle qui nous unit. Il est bien clair que cela n'a rien de commun avec ce que nous voyons aujourd'hui. Le Nazaréen, toujours d'autrefois, et la longue chevelure de l'homme aujourd'hui n'ont aucun point commun. C'est clair cela. Paul dira, c'est une honte pour l'homme de s'affubler comme il s'affuble aujourd'hui, comme pour la femme d'avoir la chevelure de l'homme. Vous voyez, Satan a réussi à renverser les choses. La femme a la chevelure de l'homme et l'homme a la chevelure de la femme. Toujours ce que Satan fait. Renverser l'ordre de Dieu. Donc, si parenthèse est fermée, il est bien évident que c'est une honte aujourd'hui pour quelqu'un d'être dans la situation où le Nazaréen se trouvait autrefois. Mais nous sommes sur le terrain de l'Ancien Testament, le Nazaréen. Et autrefois, quand on voyait passer quelqu'un avec cette longue chevelure, on éprouvait pour lui ce sentiment qui consiste à se dire, eh bien voilà quelqu'un qui veut, qui désire, qui souhaite se consacrer à Dieu, faire sa volonté. D'autre part, il ne devait toucher aucune personne. Il ne devait toucher en quoi que ce soit, ne devait pas avoir le moindre contact avec ce qui était lié à la mort. Autrement dit, avec le péché, si atténué que puisse en paraître la forme. Alors vous savez bien, en nombre 19 par exemple, qu'on peut toucher un ossement dans le désert. Toucher un cadavre, évidemment, cela ne présente aucune équivoque, mais un ossement. Il y a un rapport, mais un rapport tellement lointain entre l'ossement qui est là au désert et le corps qui a été frappé par violence. Mais Dieu ne fait aucune différence entre un cadavre et un ossement. C'est un fruit de la mort, c'est un effet de la mort, elle-même gage salaire du péché. Pour Dieu, pas de petit péché. Pour Dieu, le mal est le mal, la souillure est la souillure. Les hommes ont établi des différences. Mais pour Dieu, il n'y a qu'une seule catégorie de péché. Et combien de péchés entreront au ciel? Et pour combien de fautes l'homme a-t-il été chassé du jardin d'Éden? C'est quelque chose de solennel. Ce que nous appelons banalité, ce que nous appelons petite chose, Dieu l'appelle péché souillure. Et cela a nécessité la mort sanglante de son bien-aimé. Pour une seule faute, l'homme a perdu le jardin d'Éden et les conséquences de cette faute sont passées à tous les hommes. Alors il sera Nazaréen de Dieu, séparé pour Dieu dès le ventre de sa mère. Mais pour que l'enfant le soit, pour que son sang le soit, il fallait d'abord que la mère commence à l'être. Quel enseignement, si nous avions le temps, pour la femme, pour une jeune maman. Jamais l'enfant ne pourra se soustraire. Tout le responsable, si même extérieurement, il paraît en avoir perdu le souvenir, sa conscience ne manquera pas tôt ou tard de lui rappeler ce qu'il a entendu d'une mère pieuse. Jamais l'enfant ne pourra oublier cela. Alors, pour que l'enfant soit nazaréen, elle-même devait commencer à l'être. Le jeune garçon sera nazaréen, mais elle-même devait évidemment s'abstenir de tout ce qui était lié par la loi du nazaréen. Alors, la femme vient raconter cela à son mari, mais ce sont des gens humbles, mais on sent ce qui manque, hélas, aujourd'hui, il y a souvent, on sent la confiance et la communion entre cet époux et son mari. Ils souffrent d'être assujettés aux Philistins. Font partie d'un résidu pieux qui certainement même deuil en voyant et en constatant l'écrasement du peuple de Dieu sous la main des Philistins. Alors vous voyez le sentiment d'affection, de confiance qui lie ce foyer. La femme a parlé à son mari et puis prise leur esprit de dépendance. Au verset 8, Manoah supplia l'Éternel et dit, ah Seigneur, tout frappé quand on ouvre les prophètes de la captivité, Jérémie et Ézéchiel. Ces hommes ont beaucoup souffert, ont vécu des temps effroyables, mais cela a développé leur communion avec Dieu, et on retrouve précisément ce que nous avons là. Si vous voulez chercher, sous la plume de Jérémie et Ézéchiel, c'est hautement intéressant. Ézéchiel dit bientôt, ah Seigneur éternel. C'est une expression d'intimité. Il reconnaît à la fois l'autorité du Seigneur, Adonai, le Seigneur, mais en même temps l'Éternel, qui a fait des promesses. Et souvent, et Jérémie aussi, vous voyez, comme nous disons, ah Seigneur, mais eux, ils l'écrivent dans leur prophétie, ne craignent pas d'introduire ce qui était l'expression pour eux de la confiance, de la soumission, et en même temps, la communion avec l'Éternel. Et souvent, Ézéchiel dit, ah Seigneur éternel, en voyant une chose, en entendant une autre, frappé comme il est, il exprime son étonnement à l'Éternel, comme nous le ferions à quelqu'un qui nous est cher et intime. Ah Seigneur éternel. Bien, vous avez le même sentiment ici chez Manoah. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, je te prie. Ce n'est pas un homme qui prie de temps en temps. On sent, en lisant cette expression, que ce sont des personnes qui ont l'habitude d'être à la réunion de prière. Ne manque pas la réunion de prière, certainement, parce que ce sont des gens de prière chez eux, et ils savent bien, il ne faut pas le leur expliquer, ils sentent bien que le premier élément de la vie divine, l'élément essentiel de la vie divine, c'est ce qui a été vu en perfection chez lui, la dépendance. Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. L'esprit de dépendance que l'on trouve dans la prière individuelle et dans l'assemblée. L'autre caractère important, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu. Voilà les deux caractères de l'homme pieux par excellence, le parfait modèle, que l'on retrouve toujours marquant un résidu dans les temps les plus sombres. La dépendance et l'obéissance. Ah Seigneur, dit-il. Quelqu'un qui a l'habitude de s'adresser au Seigneur, mais parce que ce n'est pas une démarche exceptionnelle pour lui. Ah Seigneur, dit-il, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Je te prie. Et qu'est-ce que Dieu fait, jamais, à l'égard de ces quelques faibles personnes? Il n'y a pas besoin de demander que l'on vienne encore. Si l'ange de l'Éternel a dit une fois une chose, ce n'est pas nécessaire qu'il la répète deux fois, mais Dieu veut nous donner toute assurance, afin que par deux choses de l'Épître aux Hébreux, non seulement la parole, mais le serment, nous ayons une ferme consolation. Et Dieu, voyez quelle grâce, verset 9, et Dieu, il osa la voix de Manoah. Ah Seigneur éternel, que l'on vienne encore. Et Dieu exauce la voix de Manoah. Pensez-vous que Dieu puisse changer avec les derniers comme avec les premiers, il est le même. Dieu exauce la voix de Marie, et l'ange vint encore vers la femme, comme elle était assise au champ. Semble pas que c'est une femme, comme Sarah, qui a un grand nombre de servantes, et de commander à tout un train de maison. Non, elle est assise au champ, elle se livre à des occupations toutes saines, qui sans doute la fatiguent énormément, et elle s'assied un peu au champ pour prendre quelques repos. Des personnes marquées par la plus grande simplicité, mais des personnes de foi, personnes que Dieu connaît, il lit dans leur cœur, il a vu qu'ils étaient, eux, les parents, déjà dans leur cœur, de véritables Nazaréens. À qui le Seigneur va-t-il révéler ses secrets? À aucun croyant mondain, quelle que soit l'aspect du monde qu'il associe, avec lequel il s'associe. Mais le Seigneur révèle ses secrets à Abraham par l'autre, à Jean penché sur la poitrine du Seigneur, à ceux qui le craignent. Et voici l'homme qui était venu, elle vient, au verset 10, elle vient de dire, le rôle de Manoah semble entièrement passif. Il dit, au verset 13, au milieu, la femme se gardera de tout ce que je lui dis. Il ne semble pas qu'il y ait quoi que ce soit pour le faire. Et dans le premier âge, plus tard le père aura un rôle important, bien entendu, à remplir, mais pour le début de la carrière de l'enfant, la mère semble bien exercer l'influence prédominante. La femme, dit-il, se gardera de tout ce que je lui dis, ne mangera rien de ce qui sort de la vigne, etc., ne mangera rien d'impur, elle prendra garde à ce que je lui ai commandé. C'est-à-dire, la parole de Dieu sera autorité sur elle. Où trouvons-nous une autre femme de cette envergure? Et c'est assez de toute beauté parce que, vous voyez, après le milieu des juges, nous avons un petit livre merveilleux. Et il commence en disant, il arriva au temps où les juges jugeaient. C'est une transition pour nous amener de ce sombre temps vers quelqu'un qui va tout réparer. Tout ce que nous avons laissé tomber de nos mains, tout ce que nous avons ruiné, lui reprend tout dans sa main et tout refleurit dans sa main, à la gloire de Dieu. Personne d'entre nous, dans aucun temps, n'a pu remettre à Dieu ce que Dieu lui avait donné à garder. Mais lui, il remet. C'est une expression extraordinaire. On passe rapidement, mais c'est une expression extraordinaire. Il remet le royaume à Dieu le Père. Quand il arriva au temps où les juges le jugeaient, livre de Ruth, et le dernier mot du livre, quand on le lit, qu'on s'arrête, on se dit, quelle grâce de Dieu. Le dernier mot, c'est David. L'homme, le vrai David, nous conduit au temps où les juges le jugeaient, tant sombre, tant de ruines, mais Dieu a en vue l'homme par qui, par lequel, tout aboutira selon ses pensées de grâce. Alors sa mère était aussi la mère de celui qui va parler du roi, la mère de celui qui va introduire le roi, qui va faire la liaison. Anne, épouse d'Elkana, une digne compagne de l'épouse de Manoah, pour amener ce petit garçon Samuel, l'amener à l'entrée du tabernacle, jeune enfant. Et vous avez remarqué, la femme se gardera, elle fera tout ce que je lui ai commandé. L'influence qu'elle a exercée de Samuel, nous l'avons déjà peut-être vu ensemble ici, quand la mère s'en va, qu'elle retourne chez elle et qu'elle abandonne ce jeune enfant auprès de lui, et nous aurions éprouvé le plus grand chagrin de donner son enfant dans le tabernacle, dans ces jours-là. Souvenons-nous des fils bénis, de ce qui se passait à la porte du tabernacle. Que va faire l'enfant? C'est de toute beauté, c'est que la femme se gardera, elle obéira à la parole de Dieu. Elle a exercé une telle influence, comme un tel Nazaré a déjà sur Samuel, que quand elle s'en va, l'enfant se prosterne devant l'Éternel. Laisse partir sa mère, à conscience déjà, dès son jeune âge, de la fonction que sa mère a imprimé en lui. C'est admirable, c'est vrai. Eh bien, la femme se gardera, puissions-nous, dans nos jeunes filles ici, les jeunes épouses, celles qui le seront, puissent-elles connaître quelque chose de cette qualité morale de l'épouse de Manoah, car ne croyons pas que la femme a un rôle passif, négatif. La femme a un rôle extrêmement important à remplir dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, pour avancer un peu, puisque l'heure nous presse, Manoah dit à l'ange, laisse-nous faire le tenir et t'apprêter un choc. On comprend bien, n'est-ce pas, le souci de Manoah. Il a entendu de telles choses. Alors, le fait que c'est lui qui va commencer à sauver Israël, ah, quel bonheur pour eux. Lui, il va commencer à sauver Israël. Mais quand l'on vient parler de lui, comment parle-t-il? Car c'est lui, pas qui va commencer, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Commencera pas à le faire, mais il commencera et il achèvera. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors, Manoah, laisse-nous te retenir, nous avons t'apprêté un chauffe. Si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton pain. Autrement dit, nous ne pouvons pas être compagnons. Manger le pain, le même pain, c'est être compagnon. Nous n'avons impossible que nous soyons compagnons. Comment le Seigneur va-t-il traduire cela dans l'évangile selon Jean? À moins que le pain de blé tombant en terre meurt, il demeure seul. Ceux qui nous prêchent un Christ exemple comme homme, en vue de lui ressembler, de nous épanouir, de faire des progrès et de nous amener jusqu'à Dieu, prêche un autre évangile qui n'en est pas un. Prêche un faux évangile, car il n'y a pas d'association avec lui sur le pied de son incarnation. La nature, vous le savez bien, elle est innocente, et cela s'est perdu à plus jamais. Elle est sainte, c'est la sienne, et elle est corrompue. Mais la corrompue ne peut pas s'épanouir et devenir sainte. Mais il nous donne, il met de côté cette nature corrompue que nous portons, et nous naissons de nouveau, nous passons de la mort à la vie, et en association vivante avec lui, nous participons à une nouvelle vie de résurrection. Mais en passant par la mort, en passant par la croix. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et il n'y a pas de salut possible, il n'y a pas de salut possible en aucun autre nom que ce soit. Il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sur le ciel par lequel il nous faille être sauvés. Le nom de Jésus-Christ, d'un sauveur qui donne sa vie, qui la reprend dans la puissance d'une vie impérissable, et par la foi, par la repentance, au pied de la foi, nous recevons cette nouvelle vie. Mais nous ne pouvons pas manger du pain avec lui, nous ne pouvons pas avoir communion avec lui, sans que la mort soit interdite. Le Seigneur disait, il est avantageux que je t'en aille. Car en effet, la conséquence de sa mort et de sa résurrection, c'est que le Saint-Esprit descendait sur la terre pour baptiser les croyants en un seul corps, et d'autre part, ferait son habitation dans chaque croyant comme sceau de Dieu sur la foi, et en même temps comme puissance de la vie nouvelle. Mais sans la mort du Seigneur, le Saint-Esprit ne serait pas descendu, et il ne serait pas en nous comme l'esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba Père ». Si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton pain. Mais remarquez l'expression qui suit comme elle est belle. Mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Or, qui pourrait offrir un holocauste à l'Éternel? Car la note, si on veut bien chercher, alors c'est intéressant, les notes que toujours avec notre cher frère ici présent, nous évoquions la qualité des notes, comme elles sont enrichissantes. Si l'on veut bien chercher, c'est pas la note qui est indiquée avec le fait d'offrir un holocauste, la note B, comme si le verset 26 est plus cherché dans Deutéronome 12, dans Lévitique 14, dans 2 Samuel 6, etc., on verra que c'est offrir un holocauste, mais approché de l'autel comme un adorateur. Si tu offres un holocauste, c'est-à-dire si tu viens à l'autel comme un adorateur. Oh, c'est un fils de garde. C'est un fils de garde. Il n'a aucune fonction à l'autel. Nous savons bien quand un roi, même comme Hazard, comme Ozias, a voulu venir officier à l'autel, la lèpre lui a été infligée. Sorti, chassé hors du temple par les sacrificateurs, la lèpre avait éclaté à son front. Et voilà un fils de garde qui n'a rien à voir avec la sacrificature. Et non, il y a une vie, mais si tu offres un holocauste, un Christ qui s'offre tout entier à Dieu, par lequel, en lequel nous sommes agréables, car c'est dans l'holocauste, début de Lévitique 1, vous avez remarqué l'expression, pour la peine de la rappeler. Il la présentera vers ses toits de l'édificant au milieu du verset. Il la présentera, cette offrande de gros détail, à l'entrée de l'assignation, de la tombe d'assignation, pour être agréable. Pour être agréable, nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé. Alors si tu offres un holocauste, si tu offres ce qui annonce le sacrifice du bien-aimé Fils de Dieu, qui se livrera tout entier par obéissance à Dieu, jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et c'est en vertu de ce sacrifice, dans lequel Dieu a été pleinement glorifié, que nous sommes agréés. Alors, dit-il, tu offriras l'autel, et tu seras donc cet adorateur. Donc, pas manger le pain, impossible, pas d'association avec un Christ incarné, mais en vertu de l'Holocauste, tu deviendras un adorateur. Mandora ne savait pas que c'était non. Et tout de suite, évidemment, ayant entendu de telles choses, il dit, quel est ton nom? Ah, chers amis, comment on voudrait avoir la langue d'un écrivain pour parler de ce verset. Quel est ton nom? Afin que nous t'honorions quand ce que tu as dit avec toi, car il ne manque pas de foi, il ne manque pas de confiance. Et pour pouvoir l'honorer pleinement, dignement, dis-nous ton nom. Pour le complément du monde. Il est merveilleux. On sent bien, chers amis, l'insuffisance, la pauvreté de tout ce que nous pourrions dire devant celui qui déclare lui-même son nom et qui est merveilleux. On appelle son nom merveilleux. Pourquoi demande-tu mon nom, c'est Isaïe. Pourquoi demande-tu mon nom? Il est merveilleux. Et ensuite, non seulement son nom, mais Manoah prend le chevreau alors, et le gâteau. Vous voyez, comme cet homme est intelligent. Toujours, nous avons le chevreau pour l'Holocauste et le gâteau. Dans les sacrifices de l'ancienne alliance, toujours l'offrande de gâteau est pointe à l'Holocauste. Ce qu'il est dans sa mort, ce qu'il est dans la perfection de sa vie. Car ce qui donne efficace au sacrifice, c'est évidemment la perfection de ce qu'il est dans sa vie comme homme. Un tel souverain sacrificateur nous connaît. Ce que je suis dépend de son œuvre, mais la valeur de son œuvre est en relation avec la dignité, la grandeur de sa personne, la sainte chose mérite. Alors voilà la vérité, il offre le chevreau, il en implante le gâteau, et il les offre toujours la même chose à l'Éternel. Il approche de l'autel, ce fils de garde, ce gadite qui est étranger, qui n'a rien de commun avec la sacrificature, le voilà approché de l'autel. Nous avons été approchés par le sang de Christ. Et nous avons accédé les uns et les autres auprès du Père. Ah, quelle merveille nous avons dans ces versets. Et puis, il est dit qu'il fit des choses merveilleuses tandis que Manoah et sa femme regardaient. Il arriva comme la flamme montait de dessus l'autel au verset 20. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Et nous voilà amenés à l'Éternel. Au chapitre 1er de l'île des Actes. Son nom merveilleux, il a accompli de choses merveilleuses et elle est couronnée dans le livre des Actes au chapitre 1. Il arriva comme il regardait vers les cieux, ils l'ont vu s'en allant au ciel, élevé à cette place suprême de dignité. Et comme quelqu'un disait, la gloire divine, la nuit est bien accueillie pour l'introduire à la place suprême de gloire. Et Ézéchiel déjà s'écrit en haut. Je vis la ressemblance d'un trône en haut et un homme qui était occupé là, sur lequel il était occupé la place suprême. En haut, dit-il, il n'y a pas de place supérieure à celle descendue dans les parties inférieures de la terre, ni montée au plus haut des cieux. Il fit une chose merveilleuse tandis que Manoah regardait. Le voilà qu'il monte dans la pointe de l'autel en relation avec l'Holocauste qui a été offert. C'est en relation avec cette flamme qu'il monte vers le ciel. Le Fils a été offert, Dieu a été glorifié, et incontinent, dit le Seigneur, il le glorifiera. Le voilà. Acte 1, les disciples sont là, ne peuvent plus quitter le ciel, ils l'ont vu s'enfuir au ciel. Et les anges viennent dire, ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel, il va revenir de la même manière. C'est pour le royaume, c'est pour le Jésus, mais lui-même viendra. Selon la révélation de l'apôtre, pour enlever son épouse. Il est parti en relation avec la flamme de l'autel. La flamme qui a consumé l'autel, qui fait monter le bon parfum de l'offrande à Dieu, est en même temps la flamme dans laquelle il s'en va vers le ciel. Quelle scène merveilleuse! Il fit une chose merveilleuse tandis que mon amant regardait. Il monte dans la flamme de l'autel. Quel est le résultat, cher ami? Eh bien, nous sommes occupés. Nous sommes dans le chapitre suivant du livre des Actes. Nous tombons sur nos faces. Le Saint-Esprit descend sur la terre et c'est par l'Esprit que nous rendons culte. En esprit et en vérité, le Père en chair de tel qu'il adore et au verset 20, et ils tombèrent sur leur face contre terre. Alors, y aurait-il quelqu'un ici qui a apprécié de l'eau, le chevreau, offert sur le ciel, qu'il a vu s'en allant au ciel dans la flamme de l'autel et qui n'aurait pas à cœur de se jeter par terre, de se prosterner, c'est-à-dire de répondre à l'attente de son cœur. Ils se jettent par terre et ils se prosternent, ils tombèrent sur leur face contre terre pour se prosterner. Et vous remarquez le dernier mot, verset 21, l'ange de l'Éternel n'a paru plus à Manoah. Que d'enseignement nous avons dans des simples mots que depuis le livre. Alors Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel. L'ange n'apparaît plus. Quand l'heure est accomplie, il ne s'agit plus d'apparition comme dans l'Ancien Testament, il s'agit de révélation. Nous connaissons maintenant le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Nous avons le mot. Alors Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel. Il n'apparaît plus, ce n'est plus quelque chose de distant, de quelque chose de qui apparaît de temps en temps, je vous le montre déjà, mais vous le remplacez pour moi, c'est quelque chose de réel, de connu. Manoah connut que c'était l'ange de l'Éternel. Plus une apparition fugitive, de temps en temps, non, c'est une connaissance. Il est venu et il nous a révélé le Père. Vous êtes les petits enfants parce que vous connaissez le Père. Nous connaissons maintenant le Père. Et l'onction nous a été donnée, c'est une affaire de connaissance des personnes divines, de la pensée de Dieu. Non plus quelque chose qui apparaît et dont on saisit quelques parcelles, mais une connaissance réelle. Oui, nous excusons, l'heure est arrivée à son terme, mais nous avons seulement voulu pour nos quelques amis qui sont jeunes ici, mais les intéresser au cas pratique de Samson. Ce fils aîné, image attenuée du Sauveur, l'homme le plus fort dans l'Ancien Testament, l'homme le plus fort, mais voyez, la délivrance devait nécessiter un homme bien plus fort que Samson. Pourtant, Samson a compris des choses qu'on incline seulement de son réalité par la puissance de Dieu. Mais il fallait quelqu'un duquel il serait dit l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, manifestée dans la résurrection, manifestée dans la victoire remportée sur la puissance de l'ennemi. Cela, Samson n'a pas su le faire. L'homme le plus fort de l'Ancien Testament a laissé captif l'homme plus, a laissé captif celui qui était captif. Et Isaïe comprend plus tard, malgré l'intervention de Samson, mais l'homme sera-t-il. Mais l'homme sera-t-il toujours captif? Ne sera-t-il donc jamais délivré? Oui, l'expression, vous la connaissez bien, dans chapitre 49 du prophète Isaïe. Mais celui qui est justement captif, verset 24 d'Isaïe 49, celui qui est justement captif sera-t-il délivré? C'est une question angoissée, celle-là. Mais celui qui est justement captif, qui est tombé aux mains d'un maître dur et cruel, sera-t-il délivré? Samson n'a pas su le faire. Mais celui qui va entrer en scène, donc celui qui est plus fort que l'homme fort, va lui ravir son armure et va le déposséder de tous ses biens avant de lui briser la tête lorsque il sera lui-même crucifié en infirmité. Mais mettons le point final dans cet aspect typique. Nous signalons maintenant aux jeunes trois choses qui étaient un immense danger pour Samson et qui l'ont conduit au précipice. Car la dernière victoire qu'il remportera, c'est la victoire d'un homme vaincu. Et ce à quoi il a pu échapper, nous n'échappons pas. Alors la première chose qu'il dit, Oui, on prend le temps dans les détails, mais cette femme, image du séducteur qui est autour de lui, elle vient lui demander, mais moi, je voudrais connaître le secret de ta force. Alors, il dit la première chose, hein, verset 7 que nous avons dit. Si on me lie avec cette corde de fer qui ne peut pas m'échapper, alors je deviendrai faible comme un autre homme. Quel est le secret de la force du croyant? Et comment se fait-il que cette corde de fer lui enlèverait toute sa force? Qu'est-ce que les cordes de fer? Eh bien, quelqu'un dit qu'il s'agit de la puissance des affections naturelles, de l'élan des affections naturelles dans notre cœur. Voilà les cordes de fer. Et les cordelettes sont toutes fraîches, les élans juvéniles, un jeune homme, une jeune fille, dont les affections sont ardentes, mais qui demandent à être pensées avec Dieu, avec le Seigneur. Si nous nous laissons entraîner par l'élan juvénile de notre cœur, ce qui est bien naturel, ce sont des cordelettes fraîches qui ne sont pas desséchées, elles n'ont pas encore eu le temps de dessécher. Le jeune homme, la jeune fille, pardon, dans ses affections, des cordelettes fraîches qui ne sont pas encore desséchées. Chez un vieillard, évidemment, ces cordelettes fraîches, elles sont, il y a longtemps qu'elles sont desséchées. Mais un jeune homme, une jeune fille, au cœur ardent, quel danger pour lui d'être lié par les cordelettes fraîches qui ne sont pas encore desséchées. Dans un monde comme celui-ci, comme nous avons besoin de veiller pour que l'ennemi ne réussisse pas à nous ligoter, à nous paralyser avec des cordes de l'éclairage qui ne sont pas encore desséchées. Les élans d'un cœur jeune sur lequel nous avons veillé. Simplement, je demande à cet égard de toute valeur. Demande au Seigneur d'être gardé dans son cœur, car du cœur sont les issues de la vie. C'est pourquoi le Seigneur, dans le livre de Proverbes, dit garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Car c'est là, dans le cœur, qu'il y a cet élan des cordes de l'étrange, comme nous venons de le dire. Deuxième chose, verset 11, si on me liait bien avec les cordes de l'œuvre, qu'est-ce que c'est que l'être? À quoi nous font penser les cordes de l'œuvre qui peuvent lier quelqu'un et qui l'empêchent d'avancer, qui le mettent à la merci de l'ennemi? Des choses intéressantes, les cordes de l'œuvre qui sont pleines d'intérêt, la partie la plus élevée des connaissances humaines, des sciences humaines. C'est la partie la plus élevée de l'homme, de son intelligence, mais c'est la partie la plus élevée de la corruption humaine. Et nous pouvons en faire une idole. Alors, Samson dit, des corps de l'honneur dont on n'a fait aucun usage. Il y a aujourd'hui, en abondance, des revues de toutes sortes qui nous montrent des applications multiples, des techniques audacieuses, mises au point par les hommes, dans toutes sortes d'applications. Si on, évidemment, nous devons travailler, un jeune homme doit apprendre son métier, c'est clair. Mais il y a aussi un danger, c'est que nous nous livrions, notre esprit toujours curieux, que nous n'apportions aucun terme et aucune mesure à cette recherche des choses neuves, des inventions, des découvertes, des applications modernes, de toutes sortes de nouvelles techniques. Donc voilà des cordes neuves dont on n'a fait aucun usage. Alors, on vient de mettre au point, on parle d'une chose, d'une application électronique, que sais-je, qui vraiment révolutionne la sphère dans laquelle elle a été découverte. Ça peut passionner l'esprit, mais ce sont des cordes neuves dont on n'a fait aucun usage, et bien mis s'en sert pour nous limiter. Et enfin, sinon, il reste la troisième chose, c'est les tresses de sa tête avec le filatissé. Mon cher mon prophète Isaïe, dans le livre de Job, le filatissé, c'est encore peut-être une grande chose. Il s'agit des circonstances journalières de la vie. Le filatissé, quelque chose qui se déroule jour après jour, les petites circonstances, le train-train journalier des circonstances. Mais il peut être tel qu'il nous absorbe à un point que nous oublions les choses excellentes. Nous oublions de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors Paul disait, saisis ce qui est vraiment la vie,
pas le filatisser de la vie journalière, des circonstances qui peuvent nous enlacer, nous préoccuper à un point que nous oublions l'essentiel. Mais saisis ce qui est vraiment la vie. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier. Et voilà les trois pièges que l'Esprit de Dieu éteint devant nous par ces images, et là, on sent des papas de tomber dans ce triste piège.